Bon, ben, par quel bout on prend l'affaire SNC?
Maître Roy va nous dire ça. C'est
Maître
ça.
Benoît.
Benoît.
Oui, Maître Benoît, son client, c'est M. Roy.
Oui, c'est M. Roy. Ben, oui. Qui s'en est sorti allègrement grâce à Jordan. C'est quand même assez fort de café, comme on dit. Mais c'est ça. J'ai pas entendu toute la discussion, mais j'ai bien entendu la fin. Et je comprenais bien. Le message, c'était, écoutez, c'est parce que la justice arrive pas à exprimer assez clairement ses subtilités. J'avoue que j'ai rarement entendu une attitude aussi méprisante et aussi souriante. C'est dit avec le sourire, mais on n'est quand même pas des imbéciles, là. On comprend, on sait ce que c'est que la justice, puis on est capable de comprendre aussi les subtilités qu'il peut y avoir dans le fait qu'un contrat se base sur des gestes posés, et contraints par des durées, et on l'a bien vu dans ce cas-ci, puisque l'application de l'arrêt Jordan fait qu'il y a tout simplement quelqu'un sort blanchi sans présumé toujours innocent parce qu'il n'a pas été condamné, pourtant bien au cœur de ces transactions-là. Parce que quand tu es vice-président aux finances et que tu es plongé dans des scandales de corruption comme SNC-Lavalin l'a été, honnêtement, là, j'ai peine à croire qu'on puisse ne pas s'en rendre compte. On sait très bien que c'est faux. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu avoir une opinion sur les transactions, mais on peut pas plaider l'ignorance dans ces postes-là.
Et ça, mais ça... Mais tu peux pas dire ça, là, parce que là, non, il est innocent, là.
Ouais, il est présumé.
Il est pas présumé, c'est fini. Il est innocent.
Il est innocenté.
Non coupable.
Et probablement que ça a été très dur pour sa réputation au moment où il a été accusé de tout ça. Bon, présumons donc qu'il est innocent, mais il n'empêche que les comportements de SNC-Lavalin n'ont pas été. Et on sait très bien que s'ils n'ont pas été, il y a eu des personnes qui sont responsables. Puis là, on voit d'autres cas. Là, ce monsieur-là, là, Bibaoui, je pense, qui est en train de dilapider tout ce qu'il possède pour ne pas être poursuivi, pour ne pas avoir à payer éventuellement.
Il est généreux.
Donc,
Il est généreux avec ses proches.
Il est très généreux.
Fiducie familiale, donne
alors,
des maisons.
C'est dur de pas devenir cynique. Et ça, là, on va y revenir, mais moi, je trouve que les conséquences de l'application de la justice, oui, mais des limites, en fait, c'est ça. Des limites de la justice, ça a des conséquences sociales extrêmement importantes.
Moi, je suis peut-être fleur bleue, je suis peut-être naïf, mais je pense que les Québécois peuvent comprendre qu'au terme d'un procès, il y a des gens qui soient acquittés. Puis c'est normal que des gens soient acquittés. Normal qu'ils présentent une défense puis qu'il y ait un doute raisonnable. Dans ce temps-là, si on exclut Turcotte, le premier jugement Turcotte, les gens ne se battent pas dans les autobus à cause de ça. Regarde, M. Accurso, acquitté dans un de ses procès. Ben, tu te dis, écoute, le gars a présenté une défense, il y a un doute raisonnable, parfait. Par contre, quand le système de justice fait arrêter des gens, fait accuser des gens, et là, de façon complètement inexplicable, il y a des procureurs qui se succèdent pendant des années au point où le juge, dans la cause Bibaoui, dans son premier procès qui est tombé, il n'y a même pas eu de procès, c'est dans Bibaoui, sa première cause est tombée à cause d'un arrêt de Jordan. Ça dure, il est arrêté en 2014. Et le juge savonne les procureurs du DPCP en disant, écoutez, vous vous êtes croisés les bras, vous n'avez pas agi de façon diligente pour faire accélérer le procès. Là, je pense que les gens deviennent extrêmement
Le cas de M. Roy, là, puis ce que Maître Benoît expliquait tantôt, parce que moi, je lui dis, donc, c'est à cause du DPCP qu'il y a eu des délais, puis tout ça. Non, non, non. Un petit peu la défense, un petit peu le DPCP, puis le système. OK, on est incapable de juger ce gars-là parce que le système ne permet pas qu'on le juge. Mais après ça, là, on demande aux gens de ne pas être cyniques. Vous savez, là, il y a tout bien des limites. Duhem, il s'en va chez eux avec une tape sur les doigts. L'autre arrête des procédures vendredi. Mm-hmm. Il reste un dossier qui va procéder. L'autre, il est en train, semble-t-il, dit la presse, de cacher son fric un peu partout. Puis, le peuple est tanné, je pense. Oui, il pense qu'on a plein notre casse de se faire rire avec des bandits à cravate. Là.
Le peuple est tanné, puis ils vont amalgamer tous ceux qui échappent à la justice avec tous ceux qui sont qui ont un même profil. Alors t'amalgames les gens qui sont pas condamnés alors que tu soupçonnes qu'il y aurait peut-être des raisons de l'avoir été ou de l'être. Tu amalgames ça avec la finance, avec le pouvoir politique, avec tous ceux qui sont dans des positions de pouvoir. Le résultat, c'est l'apparition un peu partout des gilets jaunes. Tu peux pas dire qu'au début, leur revendication était fausse, parce que les gens disent, voyons, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, puis nous, on a de la misère à avoir une retraite décente, on gagne pas suffisamment, vous augmentez le prix de l'essence. Donc, il y a un amalgame qui se fait. Et ça, c'est pernicieux, parce que le résultat de ça, c'est qu'à partir du moment où tu as des mouvements comme ceux-là, qui sont plus ou moins organisés, on voit les dérapes que ça donne. Là, l'antisémitisme en France. Et éventuellement, ces dérapes-là, cette justification, ce combat juste des gens qui sont écœurés de voir qu'il y a du monde qui en profite, qui profite d'eux, donne et amène inévitablement des partis de droite à s'emparer du pouvoir. C'est ça la conséquence. Et ça, c'est un défaut majeur de la justice.
Ouais, il faut aussi réaliser qu'il n'y a pas de justice parfaite. Il n'y a pas d'institution parfaite. La justice n'échappe pas à cette règle-là. Les journalistes ne sont pas parfaits. La police n'est pas parfaite. Les profs ne sont pas parfaits. Il va y avoir des erreurs des fois. Sauf que tu as moyen de minimiser les erreurs. Là, quand ça touche au DPCP, Paul, tu le sais, c'est dur d'avoir des réponses. Puis ça pose la question suivante, qui surveille le DPCP? Qui s'assure que, par exemple, dans le cas de Pierre Duhaime, où le DPCP a autorisé 16 chefs d'accusation, à un moment donné, là, il y a un procureur qui a regardé le dossier et qui était moralement convaincu de pouvoir aller chercher une condamnation sur 16 chefs. Et à la fin, après des années, on plaide un chef d'accusation, pas de prison, une amende. Déjà là, tu te dis comme citoyen, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et y a-tu, à l'interne, tu sais, si t'es dans une... si t'as un échec de ce genre-là ailleurs, il y a une reddition de compte. C'est quoi la reddition de compte au DPCP pour un cas comme ça? Qui a analysé la preuve? Qu'est-ce qu'on a échappé? Comment faire? Puis je te dis pas ça pour trouver des coupables, les épingler après un poteau, pour éviter que ça que ça recommence dans le futur.
Mais c'est pas normal que ça prenne 5 ans.
Non.
Pas normal pour l'accusé, pas normal pour le système de justice qu'on ait besoin de 5 ans pour arriver à un arrêt des procédures. Ça n'a aucun sens. Tu sais, m'a donné l'autre exemple. Moi, je m'appelle Nathalie Normando, là. Puis là, vous me promenez d'une date à l'autre, puis vous reportez. Puis là, c'est rendu une décision qui est demandée à la Cour suprême. Là, dans l'opinion publique, je suis coupable là, de malversation. J'ai été arrêté, menotté par l'UPAC. Comment ça va finir, ça?
Regarde. C'est injuste pour Mme Normando. C'est injuste pour plein d'autres personnes qui voient leur cause s'étirer. Il y a une excellente expression en anglais pour ça. Justice delayed is justice denied. La justice qui tarde, ce n'est pas de la justice. Fait que dans un cas comme ça, moi, je repose la question. Qui, d'une part, tu poses la question, tu te demandes, qui va analyser ce qui s'est passé au DPCP pour s'assurer que ça ne se reproduise pas? Et est-ce possible que le DPCP, s'il vous plaît, les rares fois où le DPCP vient nous expliquer des affaires qui ne nous prennent pas pour des caves, parce que dans le cas de Pierre, dans le cas de M. Duhaime, t'as un procureur du DPCP qui est venu dire aux bonnes gens, écoutez, c'est pas une sinécure ce qui s'est passé, ça va pas se mettre les deux pieds sur la bavette du poil, là. C'est dur ce qui va y arriver à M. Duhaime, là. Et il a dit, il a payé une amende substantielle, 200 000 piastres quand t'as empoché illégalement des millions de dollars. Je m'attends à ça d'un avocat de la défense qui vient défendre son client, pas d'un procureur du DPCP qui espérait le mettre en prison, ce gars-là.
Tu sais, je regardais le dossier du Journal de Montréal là, sur la filière immobilière de la Caisse de dépôt et placement. Là, t'es rendu à 3 qui sont suspendus, OK, avec ça. Puis là, 3 qui, disons, en parallèle avec leurs activités dans la filière, jouaient sur le marché immobilier, OK? Suspendus avec ça. Louis Robert, lui, out, pas de paye, parce qu'il a expliqué qu'il y avait des compagnies qui influençaient les recherches. Le cynisme
naît de ces deux poids, deux mesures appliquées largement.
On fait la pause et au retour, on va parler des enfants de l'immigration. Trouver un emploi, difficile ou pas, la métropolitaine, Marc.